Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, quel bonheur pour moi de continuer de partager avec vous ces choses que le Seigneur nous a laissées dans sa parole, afin que notre foi soit une foi saine et que nous puissions la conserver telle qu'elle nous a été transmise. C'est ça le grand combat. Il est dit dans l'épître de Jude, il est dit dans l'épître de Jude que nous sommes invités à combattre pour la foi, c'est-à-dire le contenu de la foi, qui a été transmis aux saints une fois pour toutes. Alléluia. Voilà, ça va le faire. Hein. Je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu et à tourner avec moi les pages de la Bible. Tout d'abord, nous allons reprendre un texte avec lequel nous avons conclu ce matin. Dans le livre des Actes des Apôtres, Paul était vraiment soucieux, lui qui était confronté, donc déjà en son temps, à la séduction des faux prophètes, puisque tel est le sujet que nous abordons cet après-midi, la séduction des faux prophètes. Merci beaucoup. Dans les temps que nous sommes en train de vivre, l'Église du 21e siècle va être de plus en plus confrontée à... En tout cas, ces personnages dont l'Écriture nous parle et qu'elle identifie sous le terme de faux prophètes, faux apôtres, faux Christ et faux docteurs. Voilà. Dans ces quatre termes que je viens d'évoquer, il y a le terme faux. Le texte grec utilise ce mot pseudo. Pseudo-prophétesse. Pseudo, ça a donné pseudès qui signifie menteur, mensonge. Et en fait, ces prophètes, ces faux prophètes sont des prophètes de mensonge, ainsi que nous allons le voir. Et je vous le disais, Paul a été confronté non seulement... à Éphèse, mais dans beaucoup de lieux où il est allé conduit par le Seigneur pour y annoncer l'Évangile. Et voici les recommandations, je les rappelle, qu'il donne donc aux responsables de l'Église d'Éphèse. En l'occurrence, c'était des anciens qui avaient été nommés, plutôt qui avaient été établis par le Saint-Esprit. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29. Paul dit ceci, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Amen. Donc, au moment où il adresse ses avertissements, donc, à ces responsables de l'Église d'Éphèse, il dit que des loups cruels viendront, tenteront de s'introduire dans l'Église et ils n'épargneront pas le troupeau. Ils viennent pour attaquer le troupeau, c'est-à-dire l'Église du Seigneur et les croyants que nous sommes, vous et moi. Ils viennent. Qui sont donc ces loups dont nous parle Paul dans cette allégorie qu'il utilise? Eh bien, nous allons dans le livre, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, parce que dans ce texte, nous voyons, à partir du verset 13, Matthieu, chapitre 7, verset 13, cette parole de Jésus, cet enseignement du Seigneur Jésus, qui dit ceci, « Entrez par la porte étroite ». Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre, porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Pardon, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Ce que je voudrais relever dans ce texte tout d'abord, c'est que cette mise en garde du Seigneur Jésus à l'égard des faux prophètes, elle vient immédiatement après cette invitation qu'il lance à tous les hommes, eh bien, d'entrer par la porte étroite et d'entrer sur ce chemin qui est resserré. Littéralement, c'est un chemin où il y a des pressions, un chemin de tribulation. Ce mot « resserré », ce n'est pas seulement le fait que le chemin il est étroit, de telle sorte qu'on peut marcher juste à peine de ce... Voilà, c'est un chemin où on subit des pressions, des difficultés, des souffrances. Le même mot « resserré » a donné le mot « tribulation ». C'est exactement le même mot dans le texte original en grec. Voilà. Et donc, juste après avoir exhorté ceux qui l'écoutent à entrer par ce chemin, à ne pas rechercher la facilité, mais à chercher à marcher derrière celui qui est la porte et qui nous a ouvert le chemin. Et nous sommes appelés à marcher à sa suite. Et nous ne sommes pas seuls parce qu'il est avec nous sur ce chemin. Ça, c'est la réalité de l'Évangile. Ce n'est pas un chemin toujours facile. Il nous prévient. Jésus n'a-t-il pas dit, « Celui qui veut venir après moi, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ça veut dire qu'il y a une part de souffrance, il y a une part de difficulté, il y a une part d'opposition, il y a une part de tribulation qu'il faudra affronter exactement comme lui-même les a affrontés avant nous. Et dans toutes ces situations difficiles, il est là pour nous aider. Il peut nous secourir. Il peut nous aider à aller plus loin, à avancer pour arriver jusqu'au terme de ce chemin qui arrive devant les portes de perles de la cité de Dieu, celle dont il est lui-même l'architecte et le constructeur, et à l'intérieur de laquelle il nous réserve un héritage merveilleux et glorieux. Donc, voilà son message, mais juste après avoir donné son message, vous avez remarqué, immédiatement il met en garde. Gardez-vous des faux prophètes. Parce que, il veut dire simplement, si je vous annonce la vérité qui libère et qui vous affranchit, d'autres porte-paroles viendront. Mais ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Mais il nous rassure en disant, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et béni soit le Seigneur de ce que le Seigneur nous donne la possibilité dans sa parole d'identifier à quels fruits nous pouvons eh bien, reconnaître, en tout cas être très prudents sur cet homme dont nous distinguons des fruits mauvais, faire attention à ce qu'il dit et exercer notre discernement spirituel. J'attire aussi votre attention sur le fait que cette parole que nous connaissons bien, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Cette parole, quand il est dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur », elle est directement en relation avec ces faux prophètes dont Jésus vient de nous dire, eh bien, que nous les allons les reconnaître à leurs fruits. Donc, voilà, vous savez, la parole de Dieu, elle forme un tout. Et le discours de Jésus, il est parfaitement équilibré et parfaitement cohérent. Tout se tient admirablement. Et donc, voilà qui sont donc ces loups ravisseurs, dont Paul, contre lesquels Paul mettait en garde ses anciens d'Éphèse. Et je vous disais que lorsque, ces anciens d'Éphèse, donc parce qu'ils ont pris à cœur et avec le plus grand sérieux cet avertissement, parce qu'ils ont ajouté foi à cette parole qui était une parole inspirée du Seigneur, eh bien, lorsque, quelques 40 années plus tard, des faux apôtres sont venus, eh bien, ils ont été identifiés, ils ont été démasqués et ils ont été reconnus pour être des menteurs. Voilà, des pseudos, des pseudès, des menteurs. Et ils ont été chassés. Béni soit le Seigneur qui nous donne les moyens par sa parole de faire la différence, d'exercer le discernement pour savoir, eh bien, si ce qui nous est annoncé, c'est la vérité ou bien si c'est du mensonge. Gloire au Seigneur pour cela. L'apôtre Paul, donc, je vous le disais, avait, bien avant de parler des faux prophètes et des loups cruels donc, aux Éphésiens, pourquoi leur parle-t-il ainsi ? Parce que lui-même a été confronté à un faux prophète qui s'appelait Bar-Jésus. J'aimerais vous lire son histoire. Vous la connaissez déjà de toute façon dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13 et au verset 6. Voici ce que nous lisons. Voilà donc, Paul et Barnabas arrivent donc sur l'île de Crète. Et voilà. On va lire à partir sur l'île de Chypre, pardon, à partir du verset 6, voilà, à partir du verset 6, oui. Voilà. « Ayant ensuite traversé toute l'île, c'est-à-dire l'île de Chypre, jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. » Voilà, on va s'arrêter là parce que, pour expliquer, Bar-Jésus, ça vient de l'araméen, qui est un langage très, très, très voisin de l'hébreu. Ça veut dire littéralement Bar-Jésus, fils de Jésus. C'est-à-dire, dans la terminologie de l'époque, c'est quelqu'un qui se présente comme disciple de Jésus. Disciple de Jésus. Vous vous souvenez, dans l'expression de l'Ancien Testament, on rencontre notamment à l'époque du prophète Élisée, les fils des prophètes. Vous vous rappelez cette expression, les fils des prophètes ? Ben, les fils des prophètes, vous savez bien que ce ne sont pas les enfants donc biologiques du prophète, mais ce sont les disciples. Hein, les disciples, voilà. Et là, cet homme, il prétend, tout en étant magicien, être disciple de Jésus. Voyez ? Disciple de Jésus. Jésus l'avait dit, ils viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, c'est-à-dire littéralement, attendez, excusez-moi, voilà, c'est-à-dire littéralement, c'est moi qui suis le Christ, c'est moi qui ai reçu l'onction. Le mot Christ, ça veut dire ouin, voilà, c'est l'équivalent du mot Mashiach en hébreu, c'est celui qui est ouin, qui a reçu l'onction pour le qualifier dans l'exercice du ministère auquel le Seigneur l'a appelé. Eh bien, le Seigneur Jésus a prévenu, ils viendront sous mon nom, mais ce sont des faux Christ. C'est-à-dire, ils prétendent avoir reçu l'onction d'en haut, mais non, en réalité, ils sont capables de créer une fausse onction, une atmosphère. Vous savez, ces atmosphères, comme beaucoup les aiment aujourd'hui, où, voilà, c'est vrai, on est là, on est ensemble, on est bien dans la présence du Seigneur, disent-ils. Dieu nous aime et il va intervenir, il veut nous bénir. Et nous, nous sommes là vraiment pour nous occuper de vous, pour vous accueillir. Tout ça, c'est vrai. Mais lorsque ces paroles, elles sont dites en dehors de l'onction du Saint-Esprit, elles sont capables de créer, en fonction du personnage qui prononce ces paroles, une fausse atmosphère de paix, de calme, d'espérance, qui correspond à l'attente de ces gens qui viennent et qui sont en cherche de repères, peut-être de quelqu'un qui va pouvoir les aider, etc. Ils sont capables, dit le Seigneur, ces faux Christ, de créer une fausse onction, d'autant plus s'ils sont des magiciens. Il y a des magiciens, c'est-à-dire des personnes qui travaillent avec la puissance des ténèbres, qui sont capables de créer l'illusion de la présence du Saint-Esprit. C'est une réalité, cela. Peut-être dans nos pays occidentaux, dans nos pays, matérialistes, pas véritablement conscients de l'œuvre des magiciens ou des sorciers, mais dans d'autres pays, je puis vous assurer, pour avoir vécu d'abord en Afrique et être allé pendant quelques années visiter nos frères et nos sœurs en Afrique, avoir entendu des témoignages de la part de serviteurs de Dieu, absolument, qui vous remettent vraiment, pardonnez-moi, qui vous remettent d'aplomb en rapport avec ce que la parole de Dieu annonce. Vous avez parfois certaines églises qui sont l'objet de tentatives de la part de véritables sorciers ou bien de sorcières, des tentatives d'infiltration pour semer le trouble, pour semer la division, semer la perturbation. Je me souviens du témoignage de ce frère qui me racontait que dans cette église, une assemblée que je connais d'ailleurs très bien, parce que pour l'avoir visitée peut-être 15 fois, un jour, deux sorcières ont été mandatées par un supérieur pour venir infiltrer cette assemblée, et avec des pouvoirs pour semer le trouble. Et ces pauvres femmes qui n'avaient connu que cela, qui étaient sous l'emprise de fétiches, eh bien, ont donc obéi, parce qu'il y a une crainte, si on n'obéit pas, de recevoir un châtiment, voire de mourir. Donc elles sont venues et elles ont mis en œuvre leur stratagème, leur trafic. Mais voici que l'assemblée a été visitée par le Saint-Esprit. Et ces femmes se sont retrouvées alors qu'elles étaient dans l'ignorance. Et vous savez que Dieu ne tient pas compte, nous est-il dit, des temps d'ignorance. Alors que ces femmes étaient là, elles ont été libérées de l'emprise de la puissance des ténèbres. Et elles ont été amenées, mais le cœur vraiment touché, contrit, dans les larmes. Elles se sont avancées jusque devant, sur le devant de l'estrade. Il y avait peut-être une quinzaine de pasteurs sur l'estrade. C'est une grande assemblée. Et là, donc, des pasteurs sont descendus et se sont demandé, qu'est-ce que vous voulez ? Parce que c'était en plein culte. Et ces deux sœurs, parce que vous l'avez compris, ce sont devenues des sœurs. En fait, elles se sont données au Seigneur. Elles ont été complètement libérées, affranchies de la puissance de l'ennemi. Elles sont littéralement passées non seulement de la mort à la vie, gloire à Dieu, mais de la puissance de Satan à Dieu, exactement comme dit l'Évangile, comme dit plutôt le livre des Actes des Apôtres. Et Dieu place ses paroles dans la bouche de l'apôtre Paul. C'est le mandat qu'il a reçu de la part du Seigneur. C'est ce qu'elles ont vécu, ces femmes. Elles ont été complètement délivrées. Mais béni soit le Seigneur pour l'action du Saint-Esprit. Ces choses nous y sommes déjà confrontés de toute façon, en France, en Europe et dans nos pays occidentaux, mais vraisemblablement, nous allons les voir de plus en plus. Et nous avons besoin d'être vigilants, d'être prudents, et mon frère le sait, justement sur mais les personnes qui visitent les églises, voilà, nous avons besoin d'être vigilants. Il faut être accueillant, mais il faut être accueillant avec le discernement. Alléluia. Voilà, et j'ai beaucoup aimé le témoignage que nous disait notre frère ce matin sur cette personne qui était venue pour la première fois, qui avait demandé un numéro de téléphone, là voilà, et la réponse qui lui a été donnée était vraiment pétrie de bon sens. Voilà, et la personne n'est plus revenue. Je ne dis pas que c'était un magicien, mais il y a des séducteurs et nous devons veiller. Voilà, Bar Jésus, donc, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Nous avons ici une indication, vous voyez, les faux prophètes, ces faux prophètes, nous allons souvent les retrouver dans les Écritures, mais dans la réalité de notre monde d'aujourd'hui, près des hommes de pouvoir. Ils sont près des hommes de pouvoir, pourquoi ? Parce que ces hommes, ces faux prophètes, sont des hommes qui aiment le pouvoir, qui aiment les honneurs et qui recherchent le pouvoir. Souvenez-vous, et je voudrais prendre... Non, nous allons continuer jusqu'à la fin du récit. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il faut dire que le Seigneur avait fait une œuvre déjà extraordinaire à travers les mains de Paul et de Saul, Paul donc, et Barnabas dans cette île, à tel point que ces œuvres sont arrivées jusqu'aux oreilles du plus haut personnage de l'île de Chypre, en l'occurrence le proconsul. Et cela, vous voyez, quand il y a les œuvres du Seigneur, un désir est suscité dans le cœur, et cet homme, qui était pourtant un polythéiste, a désiré vraiment entendre ce message qui transformait les vies et qui était confirmé donc avec certainement des guérisons, etc. Et donc il a convoqué Saul et Barnabas. Et regardez ce qu'il nous est dit, il avait le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, celui qui prétendait être disciple de Jésus, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi, c'est-à-dire de la foi qui sauve, le proconsul. Et là, regardez. Alors Saul, appelé aussi Paul, et à partir de ce moment-là, il sera toujours appelé Paul d'ailleurs. Paul, ça veut dire, vous savez, ça veut dire petit. Petit serviteur d'un grand Dieu. Alléluia. Petit. Paul, rempli du Saint-Esprit. C'est là, frères et sœurs, le grand privilège qui est le nôtre. Voilà. C'est d'avoir expérimenté la puissance du Saint-Esprit à travers le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que cette expérience nous ouvre les portes du discernement des esprits qui est un des dons spirituels que Paul a exercé à ce moment-là. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Vous rendez compte ? Fallait quand même le dire, ça. Cet homme qui se tenait, qui était devenu un familier du proconsul, il se voit confronté à la parole de Dieu qui lui est apportée par un humble serviteur du Seigneur, mais qui est rempli du Saint-Esprit et qui parle réellement de la part du Seigneur. C'est ça que signifie le mot prophète. Le prophète, au sens étymologique du terme, c'est un porte-parole autorisé par Dieu. C'est-à-dire qu'il a reçu vraiment le mandat d'apporter le message du Seigneur, un message que Dieu met dans son cœur et qu'il a la charge de délivrer tel qu'il l'a reçu. Eh bien, regardez cette parole. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, il est en train de dire à celui qui prétendait être un disciple de Jésus qu'en réalité, il est un disciple du diable. Et c'est ça la réalité des faux prophètes. C'est ça la réalité des faux prophètes. C'est que ces faux prophètes ou ces faux docteurs ou ces faux apôtres, ils savent bien se faire passer pour des disciples de Jésus. Ils sont capables de parler de Jésus. Ils sont même capables de parler de l'Esprit. Ils sont capables d'annoncer l'Évangile. Mais regardez ce que Paul dit dans la seconde épître, dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 11. Dans ce texte-là, la crainte de Paul, c'est de voir ce qui s'est reproduit dans le jardin d'Éden avec Ève, ce moment où Ève a été séduite, Ève a été trompée par le diable. Paul a dans son cœur la crainte que ces Corinthiens, auprès desquels il est resté pendant 18 mois, vous lirez cela dans le livre des Actes des Apôtres, il leur a annoncé l'Évangile, il s'en est occupé, vraiment, voilà. Et il a la crainte, eh bien, que la foi de ces Corinthiens soit renversée. Pourquoi ? Parce que des hommes sont venus après lui. Ils sont venus après lui pour annoncer, écoutez bien maintenant, nous allons lire, pour annoncer quoi ? On va le lire. Verset 3, 2 Corinthiens chapitre 11, voilà, merci beaucoup. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Voyez ? Et c'était ça la crainte de Paul. Remarquez ces trois expressions. Ces faux prophètes sont venus pour prêcher un autre Jésus, il est question d'un autre esprit, et il est question d'un autre évangile. C'est pour ça que c'est difficile de faire la part des choses. Et il n'y a que avec la grâce du Seigneur et l'assistance du Saint-Esprit que nous sommes en mesure de faire la différence. Jésus l'a dit, vous les reconnaîtrez, gloire à Dieu, à leurs fruits, à leur manière d'être. Même s'il vous parle de Jésus, attention. Vous connaissez ce dicton populaire qui dit « Tout ce qui brille, eh bien vous le connaissez. » Et c'est vrai, c'est facile de faire du toc. Eh bien, l'évangile qu'il prêche, c'est du toc. Le Jésus dont il parle, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce n'est pas l'homme de douleur habitué à la souffrance. Ce n'est pas ce Jésus-là. L'évangile qu'il prêche, ce n'est pas l'évangile que Paul prêchait au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas cet évangile qui sauve. D'ailleurs, c'est à ces mêmes Corinthiens, regardez, 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez ce que Paul dit encore à ces Corinthiens qui décidément étaient vraiment éprouvés, puisque de fausses doctrines, notamment au sujet de la résurrection, étaient déjà à l'œuvre dans cette église de Corinthe. Et c'est d'ailleurs un des thèmes de cette première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er, Paul dit ceci. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, et écoutez bien, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. » Et ensuite, il va dire, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » Ça, c'est le message de la croix. Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et ainsi de suite. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous laissons pas impressionner par les discours des faux prophètes qui n'ont qu'un seul but, précisément impressionner leurs auditoires. Car ces gens ne prêchent pas Christ, mais souvent ils se prêchent eux-mêmes. Ils se prêchent eux-mêmes. Ils racontent leurs exploits, leurs révélations. Le drame, c'est que cet évangile est supporté parfois par des chrétiens qui sont malheureusement mal affermis, certainement. Vous savez, aujourd'hui, en quelques clics sur Internet, vous pouvez être confronté à des faux prophètes. C'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que les temps que nous sommes en train de vivre n'ont pas eu de précédent dans l'histoire, parce qu'avec Internet maintenant, ces faux prophètes, ils viennent à vous. Vous n'avez pas besoin d'aller les chercher. Voyons, tiens, j'ai entendu d'un tel, où est-ce qu'il est? Non, vous êtes tranquillement chez vous, vous avez entendu un nom, vous allez sur Internet, tac, tac, tac. N'y allez pas d'ailleurs. Mais si vous y allez, vous pouvez vous mettre en danger. Vous pouvez vous mettre en danger. Je suis abasourdi par l'écoute quand je vois les dizaines de milliers de, comment dirais-je, de comment on appelle ça, les clics là, les dizaines de milliers que recueillent certains gens. Je les écoute parce que je veux être informé, je veux savoir qu'est-ce qu'ils disent. Pour dès que j'en ai la possibilité de dire, attention, ce qu'ils disent, c'est pas vrai à cause de ça et à cause de ça. Voilà ce que dit l'Écriture. Je suis abasourdi. Des dizaines de milliers. Quelqu'un qui se targue d'avoir des révélations, d'avoir fait des études depuis des années et des années. Vous savez, quand quelqu'un se présente à vous comme ça, vous dites, waouh, vous avez le menton qui tombe par terre, vous êtes baba. Et ça, c'est un serviteur de Dieu. Eh bien, Dieu dit ça, attention, ça c'est un faux prophète. L'Écriture dit qu'un autre te loue et non ta bouche. Déjà, quelqu'un qui se met en avant, qui dit j'ai eu des révélations, j'ai ceci, cela, etc. Tous les clignotants de votre vie doivent se mettre au rouge, bien-aimés frères et sœurs. Il faut faire attention. Quand je pense à l'apôtre Pierre et à l'apôtre Jean, quand ils montent à l'heure de la prière au temple pour prier. Voilà, voici que sur les marches du temple, il y a un aveugle né de naissance. Ça fait longtemps qu'il est là, hein, voilà. Ça fait vraiment longtemps, hein. Ça fait plus de 40 ans, hein, voilà. Pardon, c'est pas un aveugle, c'est un boiteux. Le boiteux, voilà. Des fois, on est emporté. Voilà. Mais en tout cas, simplement pour dire que certainement le Seigneur Jésus l'a vu, puis il est allé plusieurs fois au temple. La Bible dit qu'on le mettait là tous les jours. Tous les jours. Mais, voyez, le Seigneur n'est pas intervenu parce qu'il y a aussi le temps de l'intervention de Dieu. C'est toujours au temps marqué que le Seigneur Jésus fait les choses. Toujours. Mais cette œuvre, elle avait été préparée. Vous savez, le Seigneur nous dit qu'il a préparé d'avance des œuvres pour que nous les pratiquions. Mais cette œuvre, elle était préparée pour Pierre et pour Jean, afin qu'en annonçant l'Évangile, eh bien, il fasse entrer cet homme dans la réalité glorieuse de ce qu'est l'Évangile encore aujourd'hui. Un Évangile qui libère, un Évangile qui nous apporte, qui apporte la santé à nos corps souffrants, malades. Un Évangile qui nous permet de vivre et d'entrer dans le temple pour louer Dieu. Un Évangile qui permet que nous ayons une réelle communion avec le Seigneur. Ce que cet homme ne pouvait pas avoir à cause de son handicap. Il ne pouvait pas entrer dans le temple. Donc, nous savons comment ça se passe. Ils encouragent sa foi. Voilà, ils le prennent par la main. Cet homme croit, il est guéri. Et immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens qui ont vu cela, ils se tournent vers Pierre et Jean. Et Pierre s'en rend compte. Et il leur dit, mais pourquoi arrêtez-vous vos regards et pourquoi vous nous regardez, nous ? Mais sachez-le, c'est pas nous qui avons fait marcher cet homme. C'est le nom de Jésus. Et ils les ont repris tous. Et les ont encouragés à placer leur foi en Jésus. Pierre ne s'est pas prêché lui-même. Bien sûr que quand des œuvres comme celle-ci s'opèrent, évidemment, tous les regards se braquent sur les hommes. J'allais dire, c'est bien humain, c'est tout à fait humain. Mais si je puis m'exprimer ainsi, ils ont remis les choses à leur place, dans l'humilité, dans la foi, conscients que ce seul fait d'avoir les yeux fixés sur eux, s'ils avaient permis que ce regard s'arrête sur leur vie, ils auraient certainement perdu quelque chose dans leur ministère, une efficacité, l'approbation du Seigneur qui a dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Et ces bien-aimés, Pierre et Jean, ils ont donné gloire au Seigneur et ils ont orienté la foi de ces personnes mal informées, ignorantes. Ils ont orienté leur foi vers le Seigneur Jésus. Voilà ce que feront toujours les authentiques serviteurs de Dieu. Mais j'imagine que Sergius Paulus devait être impressionné par ce Bar-Jésus, ce disciple de Jésus, car je rappelle qu'il était magicien. C'est-à-dire que certainement qu'il devait aussi opérer des prodiges et des miracles. C'est bien ce que nous a dit le Seigneur Jésus, oui ou non ? Oui ! Ils feront de grands prodiges et de grands miracles. Matthieu chapitre 24, verset 24, c'est facile, hein ? Matthieu 24, 24. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous avons besoin de prendre en considération toutes ces choses. Voilà, le véritable serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui accepte que les regards se posent sur lui, mais c'est celui qui, en délivrant ce merveilleux message de l'Évangile, amène les âmes à s'attacher au Seigneur. Et tout au long de son ministère, eh bien, le serviteur de Dieu veille à ce que ceux et celles dont il a la charge s'attachent bien au Seigneur. Bien sûr. Et il faut avoir de l'affection pour les serviteurs du Seigneur. La Bible le dit. La Bible en parle. Il faut apprendre aussi à leur obéir parce qu'ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte devant le Seigneur. C'est la lourde responsabilité des serviteurs de Dieu. Et c'est pourquoi, bien sûr, il faut les aimer, mais il faut aimer, apprendre à s'attacher d'abord au Seigneur. D'abord au Seigneur, comme Pierre, comme Jean l'ont montré en la circonstance avec la guérison de ce boiteux de naissance. Le serviteur de Dieu doit s'efforcer de centrer la vie de ceux qu'il conduit sur Christ pour les amener à une autonomie avec le Seigneur. Tandis que ces faux prophètes, ce qu'ils font, ils vous rendent dépendants d'eux-mêmes. Il crée une dépendance. Bon. Voilà, donc, leur venue a été annoncée par le Seigneur Jésus, on l'a vu, par l'apôtre Paul, nous avons vu son expérience. Lisons, s'il vous plaît, la seconde épître de Pierre. Pierre aussi en parle. Vous savez, c'est simple, de toute façon, tous ceux qui ont participé à l'écriture du Nouveau Testament sous l'inspiration du Saint-Esprit, tous les auteurs du Nouveau Testament, tous sans exception, ont parlé et mis en garde contre la séduction, tous. Et au niveau des livres, des 27 livres du Nouveau Testament, seulement deux livres n'évoquent pas ou ne parle pas de la séduction. Il s'agit de la troisième épître de Jean et de l'épître de Paul à Philémon. Je peux vous dire, je l'ai vérifié. Mais vérifiez-le vous-même. Ça vous permettra de relire tout le Nouveau Testament et ça vous fera comme ça me fait et ça me fera toujours le plus grand bien. C'est vous dire encore une fois l'ampleur et l'importance de ce sujet, n'est-ce pas ? Pierre donc dit, 2 Pierre chapitre 2, voilà, verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et voici ce qui est, notez bien ceci. Et il y aura de même parmi vous, cette fois ce n'est pas des gens qui viennent de l'extérieur, mais c'est parmi vous, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Pierre avertit donc, à son tour, sous l'inspiration du même esprit qui inspire Paul, qui inspire, donc, qui remplissait toute la vie sans mesure du Seigneur Jésus, il avertit que cette fois, il y aura au milieu du peuple de Dieu, parmi le peuple de Dieu, des faux docteurs, de faux enseignants, des hommes qui vont enseigner des mensonges et qui vont enseigner des fausses doctrines. Littéralement, voilà, quand il, dans ma version, qui est la version seconde, il est dit des sectes pernicieuses. Le texte grec parle, vous allez tout de suite comprendre, de hérésis. Hérésis, c'est, ça a donné hérésie. Des hérésies de perdition. Voilà, littéralement, ce que dit le texte original. Ils introduiront, au milieu du peuple de Dieu, des hérésies de perdition. Vous avez noté que le Seigneur Jésus, des hérésies de perdition. Une hérésie, c'est un mensonge, c'est une fausseté, c'est une fausse doctrine, c'est une doctrine de mensonge. Hein, voilà, une hérésie. Et c'est une hérésie qui mène à la perdition, tandis que l'Évangile lui mène à la vie. Voilà. Il est dit, nous avons plusieurs informations dans ce verset. Voilà. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses ou des hérésies de perdition. C'est dans la version à la colombe où il y a marqué les hérésies de perdition. La version Chouraki parle d'hérésies ruineuses. La version Darby anglaise, j'ai pris anglaise parce que le français, ça n'apparaît pas en français, mais en anglais, destructive hérésies. Destructive hérésies. Il ne faut pas avoir fait 10 ans d'études en anglais pour comprendre, quoi, voilà. Hein, n'est-ce pas ? Ils ont conservé en fait le terme qui venait du grec, hein, voilà, qui a migré aussi dans la langue anglaise, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine ou encore une perdition. Vous avez ici le mot perdition, une perdition soudaine. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte là dans le texte que ces faux docteurs dont il est question, ils ont pourtant été à un moment donné rachetés par le maître. Ça veut dire quoi ? C'est très important, ça. C'est très important. Vous savez, parmi toutes les fausses doctrines qui courent, qui affectent l'Église, de mémoire, il y a toujours la fausse doctrine de la démonologie et de l'hérédité, c'est-à-dire le fait qu'un chrétien, non seulement peut être possédé, ce qui est faux, bien sûr, mais enfin, certaines églises enseignent encore ça, et certaines églises enseignent également que d'une génération à une autre génération, il peut y avoir la transmission à cause de liens ancestraux, etc., ce qui est encore faux et ce qui est démontrable par les Écritures. C'est démontrable par les Écritures. Il y a une autre hérésie qui s'appelle l'hérésie de la sécurité éternelle, qui dit que, eh bien, une fois que l'on est sauvé, eh bien, nous ne risquons plus rien, on est toujours sauvés. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur, parce que si c'était le cas, on n'aurait pas besoin de persévérer. Tous les appels à la persévérance, où seraient-ils dans l'Écriture ? Deuxièmement, en tout cas, ce texte-là apporte un démenti, parce que ces gens, ils ont été sauvés une première fois. mais ils n'ont pas retenu l'évangile dans les termes où il leur a été annoncé, comme disait Paul aux Corinthiens, et nous avons lu ce texte, mais ils se sont laissés séduire. Et parce qu'ils n'ont pas veillé, ils ont peut-être baissé la garde, que sais-je, on ne sait pas. Mais à un moment donné, ils ont glissé, ils ont dérapé, et finalement, après avoir été séduits, ils sont devenus eux-mêmes des séducteurs. C'est ça le drame. Regardez, toujours à propos de ces gens, allons s'il vous plaît, merci pour les moyens techniques, à la fin de la seconde épître de Pierre, le verset 20 nous dit « En effet, 2 Pierre chapitre 2 verset 20, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, il s'y engage. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. » Amen. Donc ce sont des gens qui ont connu, voilà. Ce qui nous montre, bien-aimés frères et sœurs, je l'évoquais ce matin, que aucune position dans l'Église ne nous met à l'abri de la séduction, sauf celle qui consiste à rester humblement au pied du Seigneur, à la place que le Seigneur nous a assignée dans le corps de Christ. Si nous acceptons cela, non seulement nous allons nous épanouir dans notre vie spirituelle, mais nous allons être une bénédiction tout autour de nous. Elle va s'échapper de notre vie. Ça va s'échapper de nous sans le vouloir. Nous serons une bénédiction. Nous aurons la joie du Seigneur, une espérance renouvelée. Bien-aimés frères et sœurs, c'est cela la réalité de l'Évangile. Voilà, je pense que le temps a passé, donc je ne vais pas trop vous garder. Nous continuerons, si vous voulez bien, sur ce sujet encore demain soir, de manière à... j'ai encore des choses importantes, je pense, des choses que vous connaissez déjà, mais qui, dans le contexte de du focus mis sur le sujet, sont importantes, je crois, encore de vous rappeler donc demain soir. Alors, si vous le voulez bien, voilà, peut-être recueillons-nous quelques instants. Nous allons prier le Seigneur. Peut-être, je voudrais, voilà, juste... Voilà, peut-être un verset, juste un verset de conclusion. Voilà, dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Voilà. Voici ce que dit le Seigneur. Colossiens chapitre 2, verset 4. Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, donc s'exprime et dit ceci, et c'est la parole vraiment du Seigneur pour nous encore aujourd'hui. « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Amen. » Nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu, pour ta présence, pour ton aide, pour ton esprit qui rend vivante ta parole, qui la fait vivre en nous, Seigneur. Merci de nous gardés, Seigneur, vigilants. Merci, ô Seigneur, de verser encore dans nos cœurs ton amour par le Saint-Esprit. Louange à toi, Seigneur, de ce que tu veux encore dans ces temps difficiles que nous vivons. Tu veux encore que nous soyons utiles par ta grâce pour en sauver encore quelques-uns avant que tu viennes. Merci de nous aider les uns et les autres à vraiment veiller les uns sur les autres pour nous encourager à l'amour, au témoignage, à la vigilance, à la prière.